1905-1915, deux dates clés dans l'histoire de la physique du XXe siècle. Grâce au génie d'Albert Einstein, à lui seul, Einstein a révolutionné les conceptions établies autour du temps, de l'espace et de la matière, grâce à deux théories fondamentales, la relativité restreinte en 1905 et la relativité générale, qui fête donc cette année ses 100 ans et dont Einstein a dit que c'était l'idée la plus heureuse de sa vie. Dans la tête au carré, on vous propose de revenir sur ces théories révolutionnaires qui ont bouleversé le monde et qui ont été aussi difficiles à accepter qu'à comprendre. Mes invités Jean Eisenstedt et Marc Lachaiseraie vont nous raconter quelques-uns des moments forts de cette aventure scientifique avec vos messages et toutes vos questions dès maintenant. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. L'Europe vient de trancher, elle autorise l'importation de 19 OGM. C'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour, oui, 12 nouvelles autorisations et 7 renouvellements, dont celui du fameux maïs NK603, hein, qui avait fait tant parler de lui l'année dernière au moment de l'affaire Séralini. Vos questions justement à Gilles-Éric Séralini et Éric Meunier de l'association InfoGM. Tout de suite sur Twitter, hashtag l'attaque.
Violaine Ballet aux commandes de cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Anne-Cécile Perrin.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bouleversements, les bouleversements donc liés aux théories de la relativité d'Albert Einstein. Dossier dans un instant avec vous, Jean Eisenstedt et Marc Lachaiseraie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marc Lachaiseraie, Einstein à la plage, c'est le titre du livre que vous publiez chez Duno. Vous voulez donc nous faire croire qu'on peut comprendre la relativité allongée dans un transat, c'est ça?
Ah bah, il faut essayer sur la plage quand on s'ennuie un peu. Voilà, je prétends qu'on peut comprendre la relativité sans les équations. Oui. Et c'est un peu le défi de ce petit livre, quoi, d'écrire pour le grand public.
C'est vrai.
Alors, j'ai pas encore beaucoup de retours, mais on va voir si ça marche, quoi.
Bon, en tout cas, c'est votre souci aussi, en tant que physicien, c'est de partager tout ça.
Absolument, absolument. Donc, en fait, on s'adresse différemment à différents publics qui n'ont pas la même formation. Et là, j'ai essayé d'écrire pour le public le plus large possible.
Oui. Jean Eisenstedt, avec vous, alors on va mettre tout ça dans le contexte de l'époque, évidemment. Hein, vous faites un travail d'historien des sciences. On va parler évidemment du génie d'Albert Einstein, mais est-ce que Albert Einstein a écrit aussi des âneries dans sa vie?
En effet, c'est lui qui est arrivé comme à chacun d'entre nous, et en particulier sur les trous noirs qu'il ne pouvait pas supporter.
Ah bon, mais pourquoi?
Oh, écoutez, j'ai l'impression que c'est métaphysique, en fait. Et puis, c'est aussi technique. Il y a des blocages qui se font et qui vont faire, d'ailleurs, que plus généralement, l'ensemble de la communauté relativiste, on les appelle comme ça à l'époque, entre 15 et 60, 70, vont refuser, en fait, les trous noirs, d'une certaine manière, alors qu'ils étaient présents dans la théorie de Newton, d'une certaine manière.
Alors, les physiciens, justement, à l'époque d'Einstein, ont toujours bien compris ces théories, ou est-ce que ça s'est fait d'une façon un petit peu compliquée quand
ils ont eu du mal. Oui, ils ont eu du mal. C'était des newtoniens, fondamentalement. Et en fait, les notions newtoniennes s'évaporent. Il faut vraiment les oublier pour comprendre la relativité. Mmh. Et c'est très difficile.
Et c'est un bouleversement donc pour le monde de la physique et le monde, tout simplement. On va en parler avec vous, avec les messages des auditeurs, toutes les questions pour évoquer donc les théories de la relativité. Franceinter.fr, bien sûr, pour nous retrouver. L'Europe donc qui ouvre la porte aux importations de plantes génétiquement modifiées, c'est aujourd'hui à la une de notre rendez-vous de la science. Et ça ne plaît pas du tout évidemment à José Bové.
Les États-Unis ont dit que les OGM étaient une ligne rouge et qu'il n'était pas question qu'il y ait de limitation sur la question des OGM. Donc on ouvre les vannes de l'Europe sans aucun débat, alors que 75% des Européens n'en veulent pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes. C'est complètement aberrant ce qu'on est en train de voir actuellement au niveau européen.
Voilà, José Bové, chez nos confrères d'RTL, c'était ce week-end, vendredi. Donc, la Commission européenne a autorisé pour une période de 10 ans la vente de 12 nouvelles espèces transgéniques. Elle a également renouvelé 7 autorisations, dont certaines espèces contestées. Éric Meunier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur pour l'association InfoGM. Et puis par téléphone depuis Caen, nous sommes avec vous, Gilles-Éric Séralini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biologie moléculaire et président du conseil scientifique du CRIGEN. Éric Meunier, pour bien comprendre le contexte, donc autorisation accordée vendredi, qui a surpris tout le monde visiblement, y compris le conseil des ministres européens. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Oh, ça a surpris tout le monde parce que... La Commission européenne était plutôt d'une part attendue sur le dossier du maïs 1507, qui est une demande d'autorisation pour la culture, et sur lequel la Commission européenne, avec les États membres, avait mis en place un cadre législatif complémentaire, c'est-à-dire avait donné un deuxième outil aux États membres pour pouvoir interdire la mise en culture des OGM. Et sur ce maïs-là, les États membres n'avaient pas atteint de majorité qualifiée pour le maïs TC1507, donc pas d'autorisation, pas de décision d'autorisation. Mm-hmm. Donc le dossier revenait sur la table de la Commission européenne. Comme le cadre législatif est complet pour la culture, on attendait plutôt la Commission européenne sur ce dossier-là. Donc elle surprend tout le monde parce que le 22 avril, donc mercredi, elle fait une proposition aux États membres pour, pareil, un second outil pour pouvoir interdire les importations d'OGM.
Ouais.
Et deux jours plus tard, elle délivre 19 autorisations, ouais, dont des renouvellements d'autorisation, mmh, comme vous avez dit.
Il s'est passé quoi en deux jours ?
Eh ben, il s'est passé quoi en deux jours? On pense que la Commission européenne, là, fait un choix politique assez clair, un signal politique clair à différents interlocuteurs. D'une part, aux entreprises de biotechnologie qui, en octobre 2014, s'étaient plaint à nouveau des délais de traitement des demandes par la Commission européenne et les États membres.
Mmh.
D'autre part, aux États membres eux-mêmes, en leur disant autant avec Monsieur Barroso, quand il y avait des décisions à prendre sur des textes législatifs, on mettait un peu en suspens les autorisations.
Mmh.
Là, le message aux États membres a l'air assez clair de dire on n'attendra plus que vous vous décidiez ou que vous tergiversiez sur des textes législatifs. Et puis surtout, le dernier message, comme le passage, l'intervention de José Bové que vous avez passé à montrer, c'est une telle décision, alors que la Commission européenne et l'Union européenne négocient le traité transatlantique avec les États-Unis. Là, pareil, le signal de « on ouais. vous fait cette concession de se remettre à jour sur les autorisations d'OGM pour ne plus fermer l'Union européenne » est assez clair.
Mmh. Gilles-Éric Serralini, comment vous accueillez-vous cette nouvelle ?
Écoutez, très mal, cela fait maintenant 20 ans que la Commission européenne a donné toutes les autorisations de culture et d'importation contre l'avis, évidemment, du Conseil des ministres. Mmh. Jamais les conseils des ministres représentant les populations n'ont été d'accord. Et aujourd'hui, la Commission veut en fait légaliser les contaminations qui nous arrivent par les importations. C'était un dossier qui leur importait parce que on pouvait montrer qu'il y avait des importations illégales et ça bloquait tout un système économique. Mais le scandaleux de l'affaire, c'est qu'elles autorisent ces OGM avec très peu ou pas de tests sur la santé publique,
c'est ça,
malgré
ouais.
toutes les données qu'elles ont. Et donc moi, je propose que les personnes de la Commission européenne soient personnellement mise en cause en cas de mort ou de malade due à ces consommations qui sont pleines d'herbicides. Car en effet, elle reprend les vieux mythes des mêmes OGM la plupart du temps, mis à part deux œillets, avec des herbicides en grande quantité à l'intérieur.
Sauf que, Gilles-Éric Serralini, comment faire le lien direct aujourd'hui entre une consommation d'OGM et la mort d'un individu ? On ne peut pas le faire pour le moment.
Non, on peut pas le faire. On a un peu plus de chance de le savoir avec les malades sur le long terme parce que les OGM sont étiquetés en Europe. Mais si la répression des fraudes mesurait davantage la quantité d'herbicides qu'il y a à l'intérieur des OGM, on pourrait s'en rendre compte.
Mmh.
Et aujourd'hui, on sait aussi que nous avons montré dans notre laboratoire que la consommation d'herbicides Roundup et d'OGM au Roundup à long terme, le NK603, c'est le maïs qui vient d'être réautorisé, c'est celui qu'on avait testé, eh bien rend malade. Et aujourd'hui, on a bien compris tout ce que les lobbies ont fait pour essayer de faire taire les conséquences de cette étude.
C'est le fameux maïs avec les photos de rats et ces tumeurs qui ont fait le tour du monde. Hein.
Bien sûr, qui ont été non seulement ouais. confirmées, mais republiées avec des mm-hmm. données statistiques nouvelles aujourd'hui. Et il se trouve qu'on a compris que si l'étude avait été rétractée, c'est parce que quelqu'un de Monsanto s'était introduit dans le bureau éditorial de la revue un mois après que nous ayons publié, alors que la revue avant nous félicitait. Mm. Donc on a compris, dénoncé, expliqué dans un livre tous les mécanismes des lobbies qui voulaient cacher cela. Et cela est en lien avec les nouvelles autorisations de ce maïs.
Axel.
Gilles-Éric Serralini, là, les 12 nouvelles espèces autorisées sont testées par l'EFSA. En quoi ils consistent ces tests ?
Alors, ça consiste à relire les dossiers présentés par les industriels. L'EFSA n'est pas un organisme scientifique qui fait des tests. Donc, en fait, ils ont peu de compétences pour ça et pas de moyens. Et ensuite, ils voient des effets significatifs. Par exemple, prenons l'exemple du maïs 874-60. Bon, c'est des numéros qui ne disent rien au public, mais c'est un maïs de nouveau avec un gène de résistance à un antibiotique. Et il donne un poids plus faible du cœur. et du cœur par rapport au cerveau. Eh bien, la commission, et c'est le cas pour deux autres OGM, eh bien, la commission se contente de dire, derrière la ESA, qui est l'organisme européen qu'elle contrôle sur la santé, ben écoutez, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est relevant, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a une signification biologique. Alors que la moindre, quand on donne ça à des millions d'Européens, à 450 millions d'Européens, la moindre des précautions serait de dire, bah, écoutez, Séralini, c'est peut-être controversé, mais on va faire un test à long terme comme lui. Et on va attendre le résultat avant de savoir si c'est bon à manger. Il faudrait voir si ça ne donne pas, en fait, des maladies du cœur ou des maladies hormonales à plus long terme. Et en fait, ils ne font pas cela en toute connaissance de cause. Donc, ils ont une responsabilité pénale engagée, à mon avis. Et j'invite tous les juristes et les avocats à se pencher sur ce dossier.
Allez, Marc Lachaiserey, vous souhaitez réagir? Donc,
juste une petite remarque, parce qu'il y a une information que j'ai lue il y a quelques jours. Il y a une organisation internationale, je crois que le nom c'est Transparence Watch, je ne suis pas très sûr du nom, qui juge les niveaux de corruption et d'influence non contrôlés des lobbies et qui accorde des notes à tous les instituts. Et ils viennent de donner la note de la commission, de l'Assemblée de la Commission européenne, qui est extrêmement mauvaise. Donc je ne sais plus le chiffre exact, mais Éric peut-être Meunier. Qu'il y a un lien entre les deux informations.
Vous voulez répondre là-dessus ?
Moi, j'ai aucune information là-dessus.
Bon, c'était dans les journaux. Hein, ouais.
Quels sont les recours, justement, aujourd'hui, par rapport à une telle décision ?
Pour comment, les États membres,
comment le consommateur ou les États peuvent réagir aujourd'hui ?
Le consommateur français ou consommateur européen, par rapport à ce qu'il a dans son assiette, il faut qu'il regarde les étiquettes des produits qu'il achète. Hein. S'il y a marqué OGM dessus, c'est qu'il y en a. S'il n'y a pas marqué OGM, c'est qu'il y en a moins de 0,9%. Par rapport à tous les produits qui sont issus d'animaux nourris aux OGM, par contre, du lait, des steaks, des œufs, bah ça, il pourra jamais le savoir parce qu'il n'y a pas d'étiquetage obligatoire. Et c'est ça qui explique aussi que aujourd'hui, dans l'Union européenne, les OGM sont principalement utilisés dans l'alimentation animale. C'est epsilon ce qu'il peut y avoir dans l'alimentation humaine.
Gilles-Éric Séralini, pour conclure, vous souhaitiez répondre à Marc Lachaiserey peut-être ?
Oui, je souhaitais dire que, évidemment, le niveau de transparence, pour moi, qui l'ai côtoyé pendant plus de 9 ans dans les institutions et dans les ministères, et même j'ai été expert pour l'EFSA, le niveau de corruption est grandiose. Et d'ailleurs, il se trouve qu'ils ont même mis Monsanto dans le comité qui était censé refaire des tests à long terme pour confirmer ou pas nos études. Et c'est pour ça que nous avons démissionné avec perte et fracas. Aujourd'hui, nous dénonçons dans un livre avec un collègue cuisinier tous les lobbies qui sont dans ce système et à la Commission européenne. Songez simplement que la directrice de l'EFSA a travaillé pour l'ILSI, qui est le grand cabinet de lobby qui est présidé par Monsanto. Donc, ça devient inacceptable, sans transparence, et je crois qu'il faut exiger que toutes les données sur la santé, les données brutes des industriels, soient immédiatement, ça coûte 0 €, sur Internet. Mmh. Elles y sont déjà, mais il faut un code secret pour y accéder. Il faut que les gens s'en préoccupent, parce que c'est leur santé qui est en jeu, et ça montrera à tous les médecins les défauts qu'il peut y avoir dans les analyses de sang après consommation de ces produits.
Mmh. Éric Meunier, pour conclure.
Pour conclure, juste sur ce point, sur la transparence, et la demande est date, InfoGM, avec d'autres organisations européennes, on a travaillé avec l'EFSA, on leur a fait part des demandes en leur disant il faut que vous rendiez public l'intégralité des dossiers qui sont remis par l'Union, par les entreprises, sous un format avec lesquels les chercheurs peuvent travailler. Manifestement, la réponse du comité d'experts européens, l'EFSA, est que non, ce ne sera pas rendu public sous une forme qui permet d'être travaillé. Il faudra s'identifier, montrer patte blanche sur Internet pour y avoir accès, parce que on se confronte à la notion de secret industriel, soi-disant contenu dans ces dossiers.
Merci beaucoup.
Pour des analyses de sang, c'est inacceptable.
Merci en tout cas à tous les deux. Gilles-Éric Séralini avec Jérôme Douzelet, c'est ce livre « Plaisir cuisiné ou poison caché ?» Justement, c'est aux éditions Actes Sud. Et puis le site d'InfoGM, Axel, qu'on a mis sur...
Tout simplement, infogm.org.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'analyse génétique vient de faire un grand pas. Une équipe de l'université anglaise d'Huddersfield a réussi à différencier le profil génétique de jumeaux monozygotes en faisant fondre l'ADN des sujets. Les chercheurs ont pu observer la température à laquelle les liaisons d'hydrogène se rompaient. Et comme les mutations génétiques opérées au fil de la vie modifient cette température d'un sujet à l'autre, les scientifiques en ont pu différencier pour la première fois deux jumeaux monozygotes. Une puce contre l'obésité, une start-up israélienne a mis au point une puce électronique à avaler gravé en gélule et qui induit la sensation de satiété. Une fois ingérée, la puce est placée dans l'estomac à l'aide d'un aimant, puis contrôlée depuis un smartphone qui la programme pour produire une stimulation électrique dans le nerf vague. Reste maintenant à faire subir au dispositif une batterie de tests cliniques pour prouver son efficacité. Et puis, il était herbivore, il faisait 3 mètres de long, c'est le dinosaure Chilesaurus qui a été découvert en 2004 par un enfant de 7 ans. Le groupe de chercheurs qui publie une étude dans la revue Nature s'estime face au dinosaure le plus bizarre jamais découvert. Si son crâne et son bec sont ceux d'un herbivore, sa musculature et son anatomie sont celles d'un redoutable chasseur, une contradiction qui s'expliquerait par la forte pression qui pousse des espèces différentes à suivre une évolution convergente lorsqu'elles sont placées dans le même milieu. Les théories de la relativité, c'est donc dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré.
Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb.
Steppenwolf avec Born to be Wild sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
2015, donc cette année centenaire de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. C'est le dossier de l'émission avec mes invités Marc Lachaiseret, Jean Eisenstedt. Alors Jean Eisenstedt, justement, vous êtes directeur de recherche en histoire des sciences, spécialiste de l'histoire de la relativité. Vous avez participé à l'édition des œuvres complètes d'Einstein et vous êtes l'auteur, entre autres, du livre Einstein et la relativité générale qui est sorti chez Biblis. C'est dans la collection Histoire des sciences. Marc Lachaiseret, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au laboratoire astroparticules et cosmologie. Et donc, ce livre... Einstein à la plage aux éditions Duno, qui nous rappelle un peu Einstein on the beach. Il y a un petit clin d'œil très assumé
bien
là,
sûr, bien sûr.
Pour la partie musicale.
Il n'y a pas de partie musicale dans le livre.
Non.
C'est plutôt essayer de montrer la progression, c'est-à-dire pourquoi il y avait besoin d'une théorie comme d'abord la relativité restreinte, oui. Et puis quelle démarche a suivi Einstein, et puis ensuite quelle démarche il a encore suivi pour arriver à la relativité générale, en essayant de faire un peu science et la manière dont cette science est arrivée.
Ouais, et puis les questions des auditeurs aussi qui se posent beaucoup de questions, hein, parce qu'on connaît comme ça évidemment la théorie, la relativité, d'accord, mais quand on rentre dans les détails c'est un petit peu plus compliqué. Alors c'est l'occasion justement de vous interroger, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, hein, pour voir en quoi justement toutes ces théories ont bouleversé vraiment la conception du monde. Marc Lachaiserey, justement, Einstein, aujourd'hui, c'est toujours du solide, ces théories, un siècle après leur formulation, ne posent toujours aucun problème au monde de la physique.
Alors, aucun problème, c'est pas vraiment certain, c'est-à-dire il y a des problèmes théoriques dont on parlera peut-être tout à l'heure, par exemple, à propos des trous noirs, mais la relativité générale, on la vérifie en astronomie essentiellement, dans le système solaire, par des astres un petit peu bizarres, comme ce qu'on appelle des pulsars, qui tournent les uns autour des autres, et ça marche très bien. Et puis, il y a un troisième mouvement dans la genèse des théories de la relativité générale, parce que relativité restreinte, relativité générale, et j'ai envie d'évoquer un troisième mouvement, qui est l'application à la cosmologie. Ouais. Et quand on regarde l'application de la relativité générale à la cosmologie, ça a l'air de marcher très bien, mais il y a des petits problèmes et on ne sait pas si ces problèmes on doit les imputer au fait que la relativité générale ne fonctionne pas très bien à ces échelles, ou bien s'il y a d'autres solutions comme ce que l'on appelle la masse cachée ou la matière noire, ou l'énergie noire, qui sont des solutions un peu bizarres et on n'est pas sûr qu'elles marchent très bien. Donc il y a une possibilité qui est beaucoup discutée aujourd'hui par les astrophysiciens et les physiciens théoriciens, que la relativité générale ne soit qu'une théorie, disons, provisoire, et qu'il existe une théorie encore plus fondamentale qu'on ne connaît pas, et si on la connaissait, on comprendrait, on aurait le moyen de résoudre ces problèmes que je viens d'évoquer. Ouais,
Jean Eisenstadt, ça c'est la grande quête, hein, évidemment.
Oui, la grande quête, c'est les théories unitaires, c'est-à-dire toutes les interactions dont la gravitation dans une même théorie. Ouais. Et on a beaucoup de mal parce que les interactions classiques, disons relativement classiques, sont sur un espace plat pour aller vite, alors que la relativité générale, c'est un espace courbe et en fait, on ne sait pas faire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus,
c'est
et
ça.
Ont le plus grand mal.
Ça occupe beaucoup.
Ah, ça occupe, ça donne du boulot.
Il y a plein de propositions.
Absolument.
Ouais. Mais ça veut dire quoi, Einstein n'a pas été pris en défaut encore pour l'instant ?
Ah non. Ouais. Non, non, au niveau de la gravitation, ça marche très bien, comme Marc vient de le dire. Très, très bien.
Ouais.
Beaucoup mieux que ce n'était le cas il y a 50 ans.
C'est ça.
Oui, parce que...
Parce qu'on a des applications maintenant qui sont...
Il y a 50 ans, c'était finalement le système solaire. Et aujourd'hui, c'est l'univers. L'univers et ses étoiles exotiques dont parlait Marc, les pulsars, les quasars, etc. Et ça, c'est de la masse lourde. Et donc, un champ gravitationnel lourd, des vitesses très importantes, et la relativité générale, là, est à l'aise et est bien, bien vérifiée.
Et rend heureux beaucoup de physiciens.
Absolument.
Oui, à tel point que la relativité, à l'époque d'Einstein, c'était une espèce de construction intellectuelle formidable, dont la pertinence a été assez vite reconnue, assez paradoxalement, si on compare par exemple à Newton, mais dont on s'est dit, ça n'a pas beaucoup d'application. Et puis est venue une période où on a commencé à faire de l'astronomie de précision avec des instruments spatiaux, etc. Et la relativité générale s'est trouvée brillamment confirmée, mais beaucoup plus que ça. Finalement, elle est devenue non plus une construction intellectuelle qu'on devait confirmer, mais un outil. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on ne sait plus interpréter ce qui se passe dans l'univers à n'importe quelle échelle, autrement qu'en utilisant la relativité. Et même, si vous voulez, pour la navigation spatiale ou les communications spatiales, l'utilisation du système GPS, c'est un outil. On ne peut pas décrypter ces choses-là sans utiliser cette
théorie. Et donc, il faut avoir une petite pensée pour Einstein à chaque fois qu'on allume
son GPS.
Absolument,
mais on y pense tout le temps, nous.
C'est la seule application de la relativité générale. Ça me fait toujours rire d'entendre les physiciens se gausser, n'est-ce pas, de cette application.
C'est
l'unique,
la seule
L'unique, absolument. Le reste, c'est intellectuel.
Non, par exemple...
Défendez-vous, Marc Lachaiserey.
Oui, je me défends. Mais aujourd'hui, dans les laboratoires, enfin, c'est pas une application de la vie courante, mais quand on déplace deux horloges de quelques mètres l'une par rapport à l'autre, elles se désynchronisent.
C'est comme les GPS, en fait.
C'est la même chose.
Oui, c'est la...
Il triche, là.
Ouais. Non, je triche pas. C'est... Bon, enfin, d'accord.
Faites attention, c'est un provocateur.
Oui, je savais à quoi m'attendre quand je suis arrivé ici.
Il va rien vous laisser passer.
Non, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, en astrophysique, ça sert tout le temps, tu es d'accord.
En astrophysique, tout le temps, mais dans la vie commune, vraiment, c'est la seule chose dont on parle.
Ça rend heureux les physiciens, en tout cas, apparemment.
Absolument.
La théorie de la relativité.
Je suis absolument heureux.
Mais c'est ça, on sent des hommes et des femmes épanouies.
On baigne dans un plaisir.
Ah, c'est fou.
Et même les historiens, vous savez.
Oui.
Mais de toute façon, la physique de manière générale, hein, moi, comme on me demande souvent qu'est-ce que c'est la physique comme activité, moi j'ai l'impression de participer à un jeu, à une espèce de gigantesque partie qui se joue depuis des millénaires avec des joueurs comme Newton, Einstein, Galilée, etc. Ouais. Et c'est nos partenaires, et la partie n'est pas finie, et c'est une partie passionnante.
Il y a
c'est
encore
le
des
plus
énigmes,
passionnant
hein.
des jeux. Oui,
il y a encore
oui,
des énigmes, vraiment. Effectivement. Et puis c'est Jean Eisenstadt, cool. effectivement, parce que c'est de l'histoire des sciences aussi. Donc
tout
ça, c'est passionnant.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, justement, enfin, ce qui m'a intéressé, c'est la première période, disons 1915-1965-10, 50 ans pendant lesquels l'interprétation était vraiment mal comprise.
Ouais.
Et on pourrait presque dire qu'il y a deux théories de la relativité générale, avant les années 70 et après.
Ouais.
Avant, c'est du newtonien un petit peu aménagé, en gros néo-newtonien.
Ouais. Mais il y a quand même eu un Nobel pour Einstein.
Donc pas pour la relativité générale.
Ouais.
Il n'a pas eu le Nobel relativité générale. Ouais. Mais elle était très très mal acceptée à l'époque, y compris par les physiciens.
Ouais.
Il y a eu vraiment... et ça marchait mieux dans le monde philosophique, et beaucoup de livres.
Ouais. On va revenir sur la relativité restreinte et générale pour voir justement comment les deux ont été accueillis à 10 ans d'écart précisément par les physiciens de l'époque. Lorsqu'on est historien de cette période, Jean Eisenstadt, on dispose d'un matériel absolument foisonnant ou pas autour d'Einstein?
Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Et oui, il y a tout ce qu'il faut et même on n'arrive pas à lire.
Ça a été préparé cette fois-là, je crois.
Vous travaillez comment? Sur de la correspondance, sur...
Oh, avant tout sur les travaux eux-mêmes, parce que ça n'a pas été fait. Il y a très peu d'historiens de la relativité générale. Quand il y a une conférence, on est quoi, 30 hein, au niveau mondial, pas plus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a encore des choses à découvrir
énormément.
À découvrir encore aujourd'hui.
Ah oui, au niveau de l'histoire, oui, à comprendre. Comprendre comment les gens n'ont pas compris, par exemple, ce qui est le plus passionnant. Parce que les découvertes, c'est bien beau, mais s'il y a découverte, c'est qu'avant tout, il y avait non-découverte.
Ouais.
Il y avait quelque chose qui bloquait, pour les trous noirs en particulier.
Marc Lachaiseret, Einstein, est-ce que c'est un génie dès sa scolarité ou pas franchement?
Non, alors je pense pas. Il a eu des... Enfin, je connais pas tous les détails. On a souvent dit que c'était un mauvais élève, etc. Bon, je crois pas. Mais c'est vrai qu'il a pas eu... c'était pas un élève brillant, distingué dès son jeune âge. Alors, je sais pas, Jean, tu connais mieux ça que moi.
Oui.
Apparemment, supportant pas l'autorité imposée.
Ah, oui, cas, voilà, ça, c'est voilà. C'était quelqu'un qui voulait pas marcher au pas de loi, n'est-ce pas ?
Ça rend très sympathique, bien entendu.
Oui, mais c'est quelqu'un qui faisait avant tout ce qui l'intéressait.
Mais qu'est-ce qu'il va faire dans cet Institut fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Mais
du boulot,
il va gagner sa croûte.
Absolument,
quoi.
Absolument. Oui, il était très mal vu.
Mais il fait pas de la physique, là.
Il fait pas de la physique, il fait de la technique, il fait un peu de tout, des réfrigérateurs, des
hélicoptères.
Enfin,
il en fait dans sa tête,
oui,
évidemment.
Voilà, non,
mais
voilà,
il connaît aussi
voilà,
la littérature, et puis...
Ouais.
Et puis, je pense quand même, enfin ça, tu connais encore une fois mieux que moi, mais que d'avoir vu passer tous ces brevets, d'avoir été aussi dans un environnement familial où on construisait des choses... Ça lui a certainement permis de comprendre certains mécanismes qu'ensuite il a utilisés dans sa construction intellectuelle.
Allez, on se retrouve dans un instant. Et les questions des auditeurs, franceinter.fr.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry, when she says everything is fine over her head, clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside. Fireworks kept in
in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, overhead clouds that look like mines, oh, why can't she wish for brighter skies?
Look at them avec Jeanne Hadid à l'instant sur France Inter dans la tête au carré avec Marc Lachaiseret, Jean Eisenstadt pour parler de la théorie de la relativité restreinte et générale. On va quand même parler des deux, même si c'est le centenaire de la générale cette année, donc en 2015. Est-ce que justement entre ces deux époques, entre ces deux théories, on a eu le même type de réaction, Jean Eisenstadt?
Pas du tout, parce que la restreinte a été beaucoup plus rapidement acceptée. Elle avait des implications importantes. Égal MC2, on va en parler. Mmh. La générale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très, très marginal.
Oui.
Et donc, c'est un des gros problèmes de la théorie pendant 50 ans.
Oui. Marc Lachaiseret, donc 1905, pour la théorie restreinte.
Voilà, c'est une première étape qui était une étape nécessaire pour la relativité générale qui viendra plus tard, mais mm-hmm. c'est à mon avis l'étape la plus fondamentale. C'est-à-dire le grand pas est franchi à ce moment-là. Ouais. Et le grand pas, moi je l'interprète comme finalement la disparition des notions d'espace et de temps en physique, qui plus tard, grâce à l'intervention de Minkowski, seront remplacées par une notion différente qui est celle d'espace-temps. Et l'espace-temps, ça n'est pas simplement l'espace et le temps, c'est quelque chose qui a des propriétés différentes et qui font que on ne peut plus raisonner de la même manière. Mais ouais. ça marche beaucoup mieux pour expliquer quelque chose qui posait un problème absolument fondamental à l'époque, une vraie crise de la physique qui a duré à peu près un demi-siècle, qui était le fait que la lumière, en se propageant, ne semblait pas obéir aux lois de la cinématique newtonienne ou galiléenne, puisque c'est à peu près la même chose. Donc il y avait une sorte de crise à la fin du 19e siècle qui était due au fait que matière d'un côté et lumière de l'autre côté semblaient avoir des comportements différents, semblaient finalement vivre dans des mondes différents.
Allez, c'est une crise intellectuelle, Jean Eisenstadt?
C'est une crise intellectuelle, c'est une crise surtout pour les physiciens.
Ouais.
La vitesse de la lumière ne s'additionne pas, elle est toujours constante, quel que soit le repère. Et c'est quelque chose d'absurde dans un espace galiléen, newtonien. Et ça, les gens ont vraiment beaucoup de mal à la fin du 19e. Et Einstein clarifie les choses, mais en révolutionnant le monde de l'espace et du temps.
Ouais, et 1905, c'est l'année miraculeuse. Hein. Il y a cinq articles d'une importance extrême.
Oui, donc trois surtout, mais oui, c'est Einstein, c'est absolument extraordinaire. Quoi. On a du mal à imaginer comment, quand même, cet homme qui était pas dans le contexte universitaire, puisque comme on vient de le dire, il travaillait
au
bureau des brevets à Berne, même s'il avait sans doute la documentation, l'actualité de la documentation. Comment il arrive à énoncer trois nouveautés absolument révolutionnaires qui vont toutes fonder qui vont toutes engendrer une révolution de la physique. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire, inexplicable.
Oui. Jean Eisenstadt.
Oui, ce qui me frappe toujours dans les écrits d'Einstein, c'est le mot liberté. On le trouve libre, liberté. C'est quelqu'un qui ne reste pas, c'est pas un conservateur comme Poincaré, dont on a longtemps dit qu'il avait, fait beaucoup de choses d'ailleurs pour la relativité. Il avait posé beaucoup de points. Simplement, il avait toutes les pièces du puzzle, mais il n'avait pas l'image. Einstein ne s'embarrasse pas.
Mais est-ce que c'est pas le paramètre indispensable du
tout
génie?
Tout à fait, tout à fait.
Sans cette liberté-là, on peut pas faire émerger des choses nouvelles et qui vont à contre-courant, évidemment, de toutes les théories de l'époque.
Oui, quelquefois, moi, je dis que Einstein se pose des questions qu'il n'a pas le droit de se poser. Et quand on regarde dans l'histoire des sciences, souvent, les Copernic, les Galilée, etc., ceux qu'on qualifie de génie, ce sont des gens qui se sont posé des questions qu'on n'avait pas le droit de se poser vraiment dans le contexte intellectuel.
Et qui l'ont payé cher, pour certains.
Quelques-uns l'ont payé cher.
Oui. 1905, et parmi donc ces articles, on découvre la célèbre équation E égale MC2. Écoutons l'extrait d'un docu-fiction, une biographie de cette équation.
Écoutez. Je crois avoir trouvé la connexion entre l'énergie et la masse. Si j'ai raison, alors l'énergie et la masse ne sont pas absolues, ne sont pas distinctes. Et elles peuvent être transformées l'une en l'autre. L'énergie peut devenir masse et la masse peut devenir énergie. Mais il est faux de croire que l'énergie est égale à la masse. L'énergie écoute bien ceci, est égal à la masse fois la vitesse de la lumière au carré.
Si tu veux, je peux revérifier tes calculs.
Voilà, c'est Einstein évidemment qui parlait hein, oui, dans ce documentaire qui vous plaît beaucoup, Marc Lachaiserais.
Bon, non, mais ça fait sourire. Bon,
mais c'est bien.
Ah oui, hein, c'est bien.
C'est une belle histoire de Egal MC2.
Tout à fait pour mettre un peu d'humour dans la science et dans l'histoire des sciences. Mais Egal MC2, pour moi, ça n'est pas un des fondements de la relativité. C'est plutôt une conséquence du reste. Moi, ouais, je dirais plutôt la relativité, c'est vraiment la disparition du temps. Et j'insiste. Ensuite, toute une série de conséquences qui en découlent, dont ouais, le E égale MC2, qui est effectivement très important.
La disparition du temps. Vous rendez voilà, compte quand vous lâchez c'est ça comme ça, pof,
oui,
d'un
c'est
coup,
difficile. Et assez curieusement, oui, bon, j'essaye un peu de l'expliquer dans le bouquin, mais assez curieusement, c'est une notion que j'ai plus de mal à faire passer, disons, chez des physiciens qui ont l'habitude de travailler souvent dans le contexte newtonien, que chez des philosophes ou chez des gens qui n'ont pas de formation physique. C'est justement quand on est trop imprégné d'une notion newtonienne pour arriver à remettre ça en cause.
Jean Eisenstadt.
Oui, mais la disparition du temps, je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais c'est quelque chose de tout récent, finalement. J'ai l'impression que c'est un peu une mode. C'était pas le cas. Je veux dire, au contraire, auparavant, d'une manière classique jusqu'à ces dernières années, c'était le temps propre, n'est-ce pas, qui était essentiel. Et on parlait beaucoup du temps propre, et plus des distances. Oui. Et maintenant, on parle de disparition du temps. Je dois dire que moi, en tant que pauvre historien, je n'ai pas compris.
Ah ben alors, vous me rassurez, dites donc.
Ah mais il faut que tu lises mon livre alors, Jean.
On se sent bien à vos côtés, Jean Eisenstadt.
Non, mais
ça, c'est des notions qui sont assez compliquées quand même pour le cerveau humain.
Mais il y a des choses simples, si vous voulez. Par exemple, bon, si on voulait réintroduire le temps de force dans la physique, ça voudrait dire par exemple qu'on peut associer une date à un événement. Mm-hmm. Et si on se dit, tiens, tel événement est arrivé, je sais pas, l'explosion de supernova, on va chercher quelle est la date. On trouvait que cet événement, il a plusieurs dates. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il a même, dans certaines circonstances, une infinité de dates.
Pourtant, on date les choses dans le cosmos.
Alors, on date les choses.
Le Big Bang,
on le date, par exemple. Ça, c'est une très longue histoire. Mais le Big Bang, les 13 milliards d'années dont on parle, il ne faut pas les voir en termes de date. C'est une durée. C'est une durée qui s'est écoulée pour certains objets, peut-être pas réels, mais virtuels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est tout à fait possible, dans le cadre de la théorie d'Einstein, que par exemple une particule qui était présente au Big Bang et qui soit présente encore aujourd'hui, ait vécu depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui une durée qui soit de une année, simplement, pendant que d'autres ont vécu 13 milliards d'années. Et ça, ça a été finalement popularisé par ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin, qui est une petite histoire qui illustre ce genre de choses. Et on emploie le mot paradoxe. Et justement, je dissèque un peu cette histoire pour montrer qu'elle n'a absolument rien de paradoxal, elle ne heurte en rien à la logique, mais si on essaye de l'interpréter avec la notion de temps, là, ça devient complètement paradoxal. Et c'est absolument impossible de l'interpréter. Mmh. Donc c'est une illustration, à mon avis, très directe du fait que non seulement le temps n'existe pas, mais il ne peut pas exister. Il est absolument impossible de concilier la notion de temps avec les phénomènes de la nature. Et encore une petite phrase, c'est pas la relativité qui dit ça. C'est la relativité qui a été construite par Einstein pour prendre en compte cette impossibilité. Hein. C'est pas la relativité qui dit que le temps n'existe pas, c'est l'observation de la nature qui nous dit le temps n'existe pas, et Einstein a eu le génie de reconnaître ceci et de construire la théorie qui prend en compte cette disparition.
Jean Eisenstadt.
Oui, moi j'aime mieux le dire, finalement je comprends un peu ce que tu voulais dire, et ce qui se dit très souvent, chaque particule a son temps. Son temps propre. Et d'une certaine manière, le rôle de la relativité générale en particulier, c'est de coupler, de faire une sorte de carte de tous ces temps. D'où ce paradoxe des jumeaux, que personnellement je n'aime pas trop, parce que si on veut ne pas comprendre...
Vous nous en dites un mot quand même ? C'est quoi ce paradoxe des jumeaux ?
Ce paradoxe
des jumeaux.
Ah ben
oui, il faut pas nous lâcher des choses comme ça, hein. Après, il faut nous l'expliquer quand même.
Et justement, c'est très difficile à expliquer. Non, c'est tout simplement.
Je prétends que non.
Oui, mais c'est tout simplement, si vous voulez, que deux personnes qui prennent des chemins différents n'arriveront pas au même endroit, au même moment.
Dans l'espace-temps.
Voilà. Bon, on comprend.
Autrement dit, non, mais
c'est
le dire autrement.
Si vous passez pour aller de Paris à Rome, par Bordeaux ou par Lyon, vous ne prendrez pas le même temps. Et finalement, c'est quelque chose de banal.
Bon, on peut dire ça comme ça, on peut le ramener à cette chose-là. Mais pour le dire dans le langage plutôt temporel, c'est deux histoires qui ont le même début et la même fin, même événement initial, même événement final, n'ont pas la même durée. Deux jumeaux qui se quittent à 18 ans, l'un qui va se balader, qui se retrouvent, qui s'embrassent le jour de leur retrouvaille, l'un a vécu 20 ans, l'autre a vécu 40 ans. Voilà. Bon. Et donc, ils se retrouvent, l'un à 40 ans, l'autre à 60 ans.
Ils n'ont pas le même temps.
Ils sont jumeaux.
Bon, on va écouter un extrait d'Interstellar. Vous allez me dire si ça rejoint un peu ce que vous nous dites.
Bon, on a reçu les communications perdues. Donc, on a des années de données de base et aucune vraie surprise, hélas. Le site de Miller envoie toujours des pings rassurants, celui de Mann aussi. Celui d'Edmunds est muet depuis 3 ans.
Le site de Miller reste encourageant, non? On sera bientôt dessus. Mais il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait.
Gargantua? Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui.
Celle de Miller est sur son horizon?
Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir.
Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer.
Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale.
Annoncez la couleur.
Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... cette année sur notre vieille Terre. Bah quoi, les amis, c'est la relativité?
Ah, alors est-ce que ça illustre exactement ce que vous nous disiez, Marc Lachèvre?
Oui, c'est tout à fait ça. Sauf que... il y a toujours un problème quand on parle des notions temporelles, c'est que notre langage est imprégné de notions temporelles. Ne serait-ce que parce que on a les conjugaisons, on parle. Quand on parle soit au présent, soit au futur, soit au passé. Bon, et ces notions présent, futur, passé.
Dans notre langue, parce qu'il y a des cultures aussi qui n'utilisent pas ça.
C'est vrai. Mais il y a toujours un moyen de le faire. Mais puis on utilise des mots comme, qui ont toujours une connotation temporelle. Et ce qui se passe, c'est que dans le cadre de la physique newtonienne, les notions de datation, de temps, de durée, de causalité, de chronologie se confondent à peu près. Donc on peut confondre ces mots. Alors qu'en revanche, dans la théorie relativiste, la notion de durée, la notion de causalité ne sont plus les mêmes, ne se correspondent plus, la notion de chronologie non plus. Et quand je dis le temps disparaît, c'est justement le fait que toutes ces notions se correspondent, soient bien définies et se correspondent, qui est la caractéristique de la physique newtonienne et finalement de notre vision de tous les jours, cette harmonie disparaît. Et donc on a bien en relativité une notion de durée, enfin de durée propre, une notion de causalité, mais... elles ne sont pas en correspondance. Et c'est ça que j'interprète comme la disparition du temps.
Oui, un autre point qu'il faut aussi aborder, c'est la notion de distance. Il n'y a plus de 3 distances. Le mètre n'existe plus. Et ce qui est extraordinaire en relativité, c'est qu'il y a très peu de concepts vraiment propres à la théorie. Le temps propre, et c'est à peu près tout.
Oui,
et
ça suffit. À peu près tout. Et la causalité qui s'en distingue.
Tout à fait. Oui. Mais au niveau physique, c'est le temps propre. Et donc, il va falloir construire, et c'est le gros problème que les relativistes vont avoir durant toutes ces années, le concept de masse, le concept d'énergie, tout ça n'est pas défini d'une manière propre, disons, en relativité. Et c'est dramatique.
Et on poursuit notre discussion avec vous dans un instant. Les messages, franceinter.fr, le temps d'écouter Ron. Et ça continue à discuter.
Ce qu'il faudra, c'est que tu te résignes. À quitter la vie. Suivre cette fille. Tellement jaloux. Tellement sensible. À ton âge encore. À chercher plus loin, une vie impossible, où rien ne s'habille. I am.
barbe verte n'est pas permise. Des jardins d'hiver où les délices ça me nuit. Derrière de hautes parois lisses, ce qu'il faudrait, c'est que tu te résignes. À quitter la vie. Par les allées tuiles. Dans tant d'ennuis, tu t'imagines une échappée. Attends ainsi.
Quitter la ville et ses rônes.
La tête carrée sur France Inter.
Marc Lachaiseret nous promet de nous accompagner cet été à la plage avec son Einstein à la plage, La relativité dans un transat, c'est aux éditions Duno. Et puis Jean Eisenstadt, Einstein et la relativité générale, c'est chez Biblis, dans la collection de poche. Jean nous pose cette question sur le site de l'émission. Je suis élève en terminale S et en physique, on a étudié la relativité restreinte. Qu'est-ce qui la distingue fondamentalement de la relativité générale? Marc Lachaiseret, alors... Le passage de 1905 à 1915.
Voilà, 1905, relativité restreinte, une théorie qui explique beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, qui résout une crise fondamentale de la physique.
Ouais. Mais il manque quelque chose.
Il manque quelque chose, et Einstein en est bien conscient. Il manque la gravitation. C'est-à-dire, c'est une théorie qui décrit le monde, finalement, en oubliant la gravitation. Alors, il y a beaucoup de choses que ça permet de décrire, le comportement de la lumière, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres phénomènes qui relèvent de la gravitation. Par exemple, l'orbite des planètes autour du Soleil, ou des choses de ce genre... qui ne sont pas prises en compte par la théorie. Et Einstein, depuis très longtemps, était obsédé par la gravitation, par la théorie de Newton, dans laquelle il avait reconnu qu'il y avait certains manques conceptuels, bon, qui avaient déjà été pointés du temps de Newton, par Ernst Mach, par Emmanuel Kant, etc. C'était quelque chose qui était beaucoup débattu, et il était obsédé par cette question. Et il s'est dit, il faut maintenant que j'aille plus loin, que je considère que ma relativité restreinte 1905, ça n'est qu'une étape, et que je puisse aller plus loin en intégrant la gravitation. Et il a travaillé dans ce sens, avec quelque chose de fondamental dans la tête, qui est le principe d'équivalence, dont on va peut-être parler dans quelques secondes, et puis aussi avec des mathématiques qui sont des mathématiques nouvelles à l'époque, des mathématiques qui ont été inventées au 19e siècle par des géomètres, qu'on appelle les mathématiques non euclidiennes, ou plus précisément les mathématiques riemanniennes.
Jean Eisenstadt, c'est la théorie de la gravitation. Hein.
Tout à fait, c'est la nouvelle théorie de la gravitation qui va prendre la place de celle de Newton, mais difficilement. Oui. Difficilement, peu à peu. Et alors, ce qui est fondamental, comme le disait Marc, c'est le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, c'est pas très compliqué, c'est l'expérience de Galilée, tout simplement, de la tour de Pise. On laisse tomber, n'est-ce pas, dans le vide. On a fait ça quand on était gosse aussi, dans un tuyau vide, du plomb et un coton, et ça tombe de la même manière. Ce qui est fondamental, et ça va bien au-delà de la théorie de la relativité générale de Newton, c'est que toutes les particules tombent de la même manière. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on ne comprend pas.
Il y a un astronaute d'Apollo qui a fait l'expérience
tout à fait.
Aussi.
Mais c'est vrai d'une manière
très générale. Il a une plume et un marteau qui lâche et qui tombe effectivement en même temps sur le sol.
Marc nous dit ceci, on lit souvent qu'on ne sait pas quelle est la nature de la gravité. Sait-on aujourd'hui si nous avons affaire à une onde ou à une particule?
Alors là, c'est le mélange de deux questions qui en général sont posées différemment. D'un côté, quelle est la nature de la gravité? De l'autre, est-ce qu'on a affaire à ondes et particules? Cette deuxième question étant en général plutôt considérée comme du ressort de la physique quantique. Et il se trouve qu'on a un problème aujourd'hui dans notre physique, puisqu'on a deux grands corpus de pensée qui sont à la base de notre physique théorique. D'un côté, les théories relativistes dont on vient de parler, qui ont été lancées par Einstein. De l'autre côté, la physique quantique, qui a été aussi lancée au départ par Einstein et puis développée par Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Dirac, etc. Et que ces deux corpus de pensée, finalement, sont contradictoires. C'est-à-dire que tous les deux, non seulement sont formulés différemment, mais correspondent vraiment à des manières différentes de voir le monde qui sont inconciliables. Alors dans la pratique, bon, on s'en sort à peu près parce qu'on utilise soit l'un soit l'autre, sauf dans certaines circonstances, comme le début de l'univers ou les trous noirs, mais on n'arrive pas à les concilier. Et beaucoup de physiciens aujourd'hui se disent il faudrait quand même qu'on arrive à trouver une théorie qui soit plus cohérente, c'est-à-dire qui arrive à prendre en compte tout ce qui est pris en compte aujourd'hui dans la relativité, tout ce qui est pris en compte dans la théorie, dans les théories quantiques. Et donc ça, c'est la recherche d'une nouvelle théorie. Certains parlent d'une théorie du tout, certains ont évoqué à un moment les théories du cordes, on parle aujourd'hui de gravité quantique, on ne sait pas trop...
C'est la question de François, la théorie des cordes prédit que les cordes sont les plus petits constituants de la matière. Quelles sont les dernières avancées autour de cette hypothèse?
On en parle beaucoup moins, c'est-à-dire il y a quelques années, il y avait vraiment une espèce de vulgate qui disait la théorie des cordes, c'est vraiment ce qui va nous permettre de sortir vraiment une nouvelle physique. Bon, aujourd'hui, je crois que ça commence à décliner un peu, mais il y a d'autres pistes qui sont évoquées. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore la bonne, mais disons que les physiciens, avec l'aide des mathématiciens, évoquent des tas d'idées, et des philosophes, je dirais, parce qu'il y a de la métaphysique quand même toujours là derrière, des interprétations de ce que c'est, l'espace, le temps, la matière, etc. Et ils évoquent des pistes très intéressantes, avec parfois des mathématiques un peu nouvelles aussi, et on ne sait pas. On est encore dans l'expectative, et c'est une période très intéressante, je crois.
Jean Eisenstadt, 1919. Et les résultats d'une éclipse, ça c'est le fait décisif quand même pour la théorie de la relativité générale.
Oui, c'est un fait très important en effet. Jusque-là, avec le périhélie de Mercure,
si
vous voulez.
C'est la preuve que ça fonctionne.
Disons que Einstein l'avait prédit dès 1911-15. Et là, au Brésil, pendant une éclipse, on peut voir la déviation, c'est-à-dire la courbure des rayons lumineux autour du Soleil, grâce à une éclipse de Lune qui éclipse le Soleil.
Et ça, c'est un vrai tournant aussi pour l'image d'Einstein.
Absolument, c'est la gloire. C'est l'époque de la gloire d'Einstein. Tous les livres, n'est-ce pas, la courbe des publications explose pour redescendre d'ailleurs
c'est
après.
Ça.
Et Einstein est très... très très populaire à ce moment-là.
Marc Lachaiseret.
Oui, non, c'est quelque chose, c'est-à-dire cette théorie de la relativité, c'est plus que, disons, des nouvelles équations pour définir un certain phénomène, c'est plus que de passer d'une équation de Newton à une équation d'Einstein, c'est vraiment considérer ce phénomène de la gravitation et même tout le cadre de la physique d'une manière différente. Vraiment, je crois que le mot révolution est adapté dans ce cas-là, parce que on change de point de vue, c'est comme si on tourne autour et on voit les choses sous une perspective totalement différente. C'est-à-dire, la gravité n'est plus définie comme une force exercée d'un corps sur l'autre, mais comme une déformation de l'espace-temps, c'est-à-dire du cadre dans lequel se déplacent les objets, dans lequel se produisent tous les phénomènes. Donc c'est vraiment une manière différente de voir les choses, et c'est pour ça que c'est aussi révolutionnaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Einstein a trouvé les mathématiques qu'il fallait pour décrire ceci.
Larry nous dit sur Twitter, l'image souvent utilisée pour représenter l'espace-temps, c'est une toile avec une masse la déformant. Cette analogie est-elle correcte ?
Correcte à 100%. Non, mais ça donne une bonne image. Il faut la prendre comme analogie.
C'est une représentation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Einstein, au départ, c'est Minkowski qui a amené cette idée, et il a eu du mal. Il a eu du mal en 1909. Je me souviens qu'il dit, depuis que les mathématiciens sont intervenus en relativité, je n'y comprends plus rien. Quelque chose de ce genre.
Quel avenir pour la théorie de la relativité générale, alors du coup, Marc Lachaiseret, même si on cherche autre chose pour unifier les deux théories, etc.
Bien sûr. Bon, on cherche toujours, d'une part, à la tester dans ces domaines qui n'ont pas encore été testés, mais bon, la plupart des gens pensent que ça va, elle va répondre positivement. On s'en sert, comme je l'ai dit, comme outil absolument indispensable pour interpréter ce qui se passe dans les étoiles à neutrons, dans les pulsars, etc., etc. Bon, par ailleurs, on se demande, comme je l'ai mentionné, si certains problèmes, comme des problèmes cosmologiques, ne sont pas dus au fait qu'il y a peut-être mieux que la gravité, que la relativité, pour décrire la gravitation. Une théorie qu'on appellerait quelquefois, sous une appellation générique, de gravité modifiée. Il y a des gens qui s'intéressent à voir ça. Mais de toute manière, je crois qu'il ne faut pas chercher trop à modifier la relativité. Il faut plutôt se demander s'il n'y a pas une théorie plus fondamentale qui... vu d'un certain angle correspondrait à la relativité, mais qu'on pourrait voir d'un angle plus général. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on travaille. Mais encore une fois, sans doute, ça demanderait un bouleversement, peut-être un nouvel Einstein, je ne sais pas.
Ben on l'attend.
On rêve tous d'être le nouvel Einstein.
Pour l'instant,
mais dès 1920, Einstein veut faire une théorie unitaire. Oui, il faut absolument y mettre le quantique et les particules là-dedans. Il n'est pas, c'est vraiment une théorie strictement de la gravitation. Et c'est ça le grand trou. Ouais. Et c'est ça que les gens, sur les gens travaillent. Ah
oui, Einstein, qui va le combler? Est-ce qu'il est né, voilà, celui qui va le combler?
Ah ben, il aura le prix Nobel.
Ah ben, ça c'est sûr.
Tout le monde.
Mais est-ce qu'il est né?
Mais il aura le prix Nobel pour autre chose, peut-être aussi.
Ce qui est arrivé à Einstein. Ouais.
Ouais. Mais c'est long, quand même. Vous rendez compte, depuis 100 ans.
Oui, oui, non, oui, c'est, oui, long, mais c'est très, ouais, dur. Oui, ce sont des mathématiques. Hein. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la théorie de la relativité, ouais, générale, c'est une théorie mathématique. Elle est construite mathématiquement. Et c'est bien ça qui a fait sa difficulté et le fait qu'elle ne s'est développée que tardivement.
Ben, en attendant, il y a le centenaire, finalement.
Absolument.
Qu'il faut fêter dignement. Ce là, c'est en ce moment, cette année, il faut en parler, il faut rappeler cette histoire extraordinaire et révolutionnaire de la physique. Les mots sont bien pesés. Avec ce livre, par exemple, Einstein à la plage, que vous signez Marc Lachaiseret, donc aux éditions Duno. Et puis un livre plus historique, Jean Eisenstedt, Einstein et la relativité générale. C'est chez Biblis. Merci infiniment à tous les deux d'être passés dans la tête au carré.
Merci.